La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas.
Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Lacueil.
Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Voilà, la dernière fois, j'ai exprimé au fond une invite, une annonce, un peu une offre possible. À la suite de ce qui s'est passé dans l'enseignement avec les professeurs, les choses graves finalement, les enseignants, dans la journée qui leur était consacrée, ont dit « enseigner, oui, mais comment ?» Voilà. C'est sur cette question que j'aimerais animer une chronique avec des enseignants et des élèves. Une chronique pendant quelque temps où on réfléchirait à ce comment. Pourquoi ? Parce qu'au centre de consultation, Gabriel Lacueil, nous recevons évidemment des élèves, des adolescents qui ont des difficultés avec l'enseignement, mais aussi des professeurs qui sont venus dans nos réunions. Et d'ailleurs, parmi les écoutants au centre de consultation, il y a d'anciens enseignants qui, après une analyse, se sont ouverts à la psychanalyse et nous profitons de leur carrière d'enseignant chaque fois que c'est possible. Voilà. Donc, la chronique pourrait avoir lieu avec une ou deux professeurs et puis des élèves. Et il se trouve qu'il y a déjà une jeune élève qui a répondu et qui est très intéressée par cette question. Elle pense qu'il y a une amie à elle qui pourrait aussi venir, ou un ami. Voilà. Donc, je renouvelle cette offre. Hein. Tenir une chronique. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui a travaillé dans une bibliothèque aussi. Voilà. Et on pourrait inviter aussi des gens qui ont réfléchi sur la question de l'enseignement, des écrivains, et les interviewer. Voilà. La situation est quand même inquiétante, alarmante, mais elle n'est pas sans possibilité de réfléchir et de trouver des réponses à se enseigner, oui, mais comment ? Voilà. Je voudrais, la prochaine fois, en tout cas dans 15 jours, revenir sur le centre de consultation. Peut-être évoquer la façon dont il a été créé, pourquoi, les questions qui nous sont posées par les gens qui y viennent, qui traversent l'anxiété, le stress, l'angoisse, un avenir qui fait peur de plus en plus. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais aujourd'hui. Et puis, j'avais, il n'y a pas si longtemps, commencé à parler de ce qu'on appelle les bipolaires, la bipolarité. Voilà, c'est un mot qui a commencé à émerger au début des années 80, alors qu'avant, on parlait plutôt de maniaco-dépression. Et ce terme avait une histoire très riche en psychiatrie. Dans les années 90, au moment où sont arrivés à Inspiration les brevets sur les antidépresseurs qui se vendaient le mieux, c'est là que la bipolarité s'est propagée pour devenir la priorité des stratégies marketing de l'industrie pharmaceutique. Le diagnostic de la bipolarité s'est alors considérablement élargi, tiens, comme c'est curieux, au moment où l'industrie pharmaceutique déploie une stratégie, la bipolarité s'est considérablement élargie et celui de maniaco-dépression s'est trouvé d'autant plus embrouillé. Aujourd'hui, parce qu'on ne s'intéresse pas assez aux symptômes spécifiques, pourquoi par exemple un puissant besoin de communication, une tendance à dépenser beaucoup d'argent, apparaît-il en phase maniaque ? Les bipolaires sont ainsi très souvent soumis exclusivement à un lourd régime de médicaments. eh bien, il nous semble qu'il y a aussi une renonciation à travers ça, à faire l'effort d'un diagnostic rigoureux, et on veut contrôler cette maladie, et peut-être que souvent on passe à côté d'une souffrance extrême. Hein. Je crois qu'une réflexion là-dessus, et j'essaierai de reprendre ça avec vous, il est temps de l'amener, hein, et de comprendre ce monde-là. On verra qu'aux États-Unis, beaucoup de comédiens, à Hollywood aussi, se disent bipolaires, maniaques. Et quand dans les phases maniaques, ils vont dans les riches cliniques et les accueillent, leur manager, leur agent demande qu'on ne fasse pas trop baisser cet état maniaque, hein, parce que c'est tout le style de jeu du comédien. Et oui, ça va, ça peut aller jusque-là. Voilà. Je pense, oui, qu'un traitement est souvent nécessaire, mais pas au point d'éviter que l'on pose un diagnostic sérieux. Chez Freud, la dépression, c'était quelque chose qui était pris avec sérieux, justement. C'est là qu'il y a à revenir peut-être sur ce texte de Freud, hein, sur la notion de mélancolie et de dépression, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Effectivement, je serai plutôt très court, et la prochaine fois, je vous parlerai un peu plus longuement du centre de consultation, du travail qu'on y fait. D'ailleurs, certainement en janvier 2024, on va ouvrir sur la cité à une lecture sur l'introduction à la psychanalyse de Freud. Cette lecture, on la fera pas comme entre spécialistes psy, puisqu'on y fera référence aussi à la littérature, au cinéma, à la peinture, bref, une ouverture, on va dire, sur la culture en même temps, parce que Freud, qui était quelqu'un de très très cultivé, et l'introduction à la psychanalyse est quelque chose qui vient de cette très large culture. D'ailleurs, aux États-Unis, ils l'ont réduit à quelque chose d'un manuel de diagnostic. Bref, il faut se méfier aussi des diagnostics, parce qu'on peut tout d'un coup s'enfermer et puis mettre la parole des gens qui viennent nous parler de leurs souffrances dans des petites cases. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, et ça sera annoncé dans les médias, évidemment, et on pourra vous accueillir dans une salle assez grande. Voilà, chers auditeurs, portez-vous bien, sortez vos parapluies, et à bientôt.
Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.